I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
Il faut oser. Ce qui nous empêche de faire les choses, c'est la peur, c'est les émotions.
Et puis si on se plante, c'est pas grave. On recommence. Faut pas remettre à demain, parce que sinon, on le fait jamais. Moi, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise.
Aujourd'hui, je rencontre Mathilde Vercruis, applicatrice en béton ciré et créatrice de Maja M. Si depuis 3 ans, Mathilde a découvert ce métier passion, sa carrière professionnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Après des études de commerce, Mathilde commence dans le retail dans de grands groupes. Elle déchante souvent, face à des promesses qui ne tiennent pas et des valeurs inexistantes. Elle bifurque alors une première fois vers l'immobilier et se forme pour devenir agent. C'est dur, le rythme est difficile. Elle se forme à la gestion de patrimoine, mais là encore, beaucoup de rendez-vous, un rythme épuisant, puis finalement, pas beaucoup de contrats à la clé. Alors que le Covid pointe le bout de son nez, Mathilde est complètement paumée. Et c'est par hasard, en tombant sur un post Instagram d'une artisane, jolie môme, qui cherche du renfort sur ses chantiers, qu'elle va s'initier au béton ciré. C'est alors le déclic, Mathilde ne quittera plus cette vie, et ça fait 3 ans. Ensemble, on parle de statut d'artisan, des idées reçues, du bonheur de travailler de ses mains et d'oser se lancer. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Mathilde devant ses lisseuses à béton. Belle écoute.
Salut Sarah, je m'appelle Mathilde Vercruis, j'ai 33 ans, je suis dans l'artisanat suite à une reconversion il y a 3 ans. Mon parcours, il a été plutôt commun. À la sortie du lycée, je pense que comme beaucoup de personnes, je ne savais pas vraiment vers quelle voie m'orienter, enfin au lycée directement. Je pense que l'orientation en France, c'est un peu compliqué, on ne nous aide pas forcément à aller vers ce qu'on a, enfin on ne nous aide pas, si je puis dire. Et on nous met dans des cases en fonction des matières. Moi par exemple, je n'étais pas très très bonne en maths, j'étais plutôt littéraire et créative, avec une enfance plutôt marquée autour des activités extrascolaires, tu vois, musique, théâtre, sport. Et du coup, je voulais quand même être architecte. Enfin, très tôt, j'ai voulu être dans l'univers de la maison, parce que c'est vraiment ce qui me plaisait, c'est ce qui me faisait vibrer, pour reprendre un peu tes mots pour les choix d'orientation. Et malheureusement, j'étais pas très bonne en maths, donc j'ai été un petit peu mise de côté en fait sur ce point-là, puisque pour être architecte, il faut être bonne en maths. Je voulais absolument faire l'école boule, enfin tout ce qui était design vraiment. Et puis finalement, je me suis orientée vers une voie un petit peu plus large, on va dire. Et je me suis orientée vers une classe préparatoire pour faire une école de commerce parce que j'avais peur de me lasser trop dans une voie un peu trop spécifique et de pas pouvoir en sortir en fait par la suite. Donc j'ai choisi de faire quelque chose d'assez général et donc voilà, je pars en classe préparatoire pour faire une école de commerce et ben j'obtiens mon master en management. Tout se passe très bien, je suis assez scolaire finalement, donc je suis le cursus. Et puis en dernière année d'école de commerce, je réalise un apprentissage, comme beaucoup d'étudiants en école de commerce, et je rentre en fait dans une entreprise de distribution, Castorama pour pas la citer, donc dans l'univers de la maison, donc ça me plaît, je passe de belles années en fait dans cette entreprise, et puis je suis débauchée, et puis je rentre chez H&M, donc dans le retail, un univers toujours un peu dans la distribution, mais un univers différent.
Et qu'est-ce que tu fais du coup ?
Et donc je suis manager du coup. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Je rentre en tant que manager dans la distribution. Période pas facile parce que du coup, une femme à 23 ans qui gère des hommes, c'est pas évident. Mais bon, superbe expérience avec des valeurs d'entreprise qui sont chouettes. Mais bon, je m'ennuie quand même un petit peu et j'ai envie de voir autre chose. Donc à ce moment-là, je rentre chez H&M, toujours en tant que manager. Et là, ça se passe pas vraiment bien. Au bout de quelques mois, j'arrive pas, je me sens pas bien en fait. Le management, finalement, j'ai du mal avec la gestion de l'humain. J'aime pas qu'on me gère et j'ai du mal à gérer les autres et je me sens pas à ma place, en fait, tout simplement. Bah, je me dis que c'est plus possible parce que je suis vraiment mal. Je fais des crises de tétanie le matin. Enfin bref, je fais un burn-out.
Ah ouais.
Ouais, et j'ai fait un sacré burn-out et au bout d'un an...
Mais t'y restes combien de temps dans ce truc ? T'y restes un an
même
quand même ?
Même pas un an, ouais, presque, à peine un an. Parce que je me suis dit, il faut du temps pour peut-être apprivoiser l'entreprise, le travail, le rythme de travail, les valeurs, parce que pourtant sur le papier les valeurs c'était très important pour moi et bizarrement la réalité était pas la même que celle affichée en fait par l'entreprise. Donc je suis tellement mal, je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai pas le choix, je pars en fait, je démissionne. Je pense qu'il y a eu là je me suis dit la distribution c'est une bonne expérience quand on est jeune, mais c'est pas possible en fait, les horaires, les salaires qui sont pas bons, la pression, la clientèle, enfin tout ça, tout mis à bout, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. Et là, je repars de zéro et je me dis, je me pose la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que je vais faire ? Et je décide de repartir à zéro.
Et parce que tu t'es pas dit, je vais quand même faire, je sais pas, autre chose plus ou moins proche de ce que tu savais faire, tu vois, même dans une petite entreprise ou...
Ben, en fait, à ce moment-là, je me dis qu'avec mon diplôme, en fait, je lis mes compétences avec mon diplôme et je me dis où est-ce que je vais pouvoir aller avec mon master, en fait. Et ben, j'avais pas l'impression de pouvoir aller dans des voies qui étaient en lien avec ma spécialisation, c'était marketing, la distribution. Et pourtant, si, hein, c'est assez large. Mais je trouvais pas et j'ai cru, à ce moment-là, je commence à comprendre que la distribution et le salariat, je suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour moi. Et je me repose la question depuis le début, tu sais, je prends mes notes et je me dis, ok, je fais un brainstorming, qu'est-ce qui me plaît depuis le début, en oubliant que j'ai fait telles études, on repart de zéro.
Attends, et ça, tu fais ça toute seule, ta phase un peu introspective ouais. Ou tu vois quelqu'un pour t'aider un peu ?
Alors, justement, c'est là où c'est intéressant, je dirais, toute seule, évidemment, à l'écrit. Moi, j'aime bien que ça sorte et que ce soit écrit sur un papier. Et à ce moment-là, je commence à... J'ai besoin d'aide parce que je suis perdue. Et en fait, j'ai pris l'habitude depuis ce moment-là de contacter une astrologue humaniste.
Donc, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première fois que j'entends ça.
En fait, alors le mot astrologie en général, les gens l'attribuent un peu à de la voyance, mais l'astrologie humanisme, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est une personne qui va mettre l'humain au cœur de ses actions. Pour faire simple, elle te dit quels sont tes défis, quelles sont tes ressources quand tu viens sur Terre, quels sont tes points forts et là où il va falloir que tu travailles en fait tes bagages. Et puis tes défis, là où ce sera plus compliqué, et là où il va falloir que tu travailles pour arriver à ce que tu dois être. Okay. Et donc, elle te donne pas l'avenir, en fait. Elle te dit pas, telle année, à ce moment-là, je vois ça. Non, non, c'est elle te donne des clés. Et c'est à toi à travailler dessus. Elle te donne les pistes et ça t'aide, en fait, à savoir où tu dois aller. Et moi, ça m'a changé parce qu'en fait, je vais rentrer, je pense que c'est peut-être intéressant, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Elle te dit en fait que tu. Dans l'astrologie, il y a 12 maisons, je ne sais pas si ça te parle.
Non, avec... franchement, c'est vraiment la première fois qu'on parle de ça.
Donc en fait, bon, je vais faire simple, je vais faire rapide, je pense, mais si ça t'intéresse, je détaillerai. Mais en fait, nos signes astrologiques sont liés à des maisons. En astrologie, il y a 12 maisons. Et donc, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la créativité, il y a la communication, il y a le côté financier, personnel, mariage, relations, etc. Et donc, en fonction de ton signe astrologique, enfin, même de ta date de naissance, c'est très précis, tu te retrouves, en fait, dans des maisons. Et à un moment, ça matche avec certaines maisons. Donc moi, par exemple, ça va être très concret, à ce moment-là, elle me dit, l'immobilier, tu es dans cette maison-là, tu es aussi dans la créativité, tu es dans la communication, tout ce qui est finance, tu te retrouves énormément dans ces domaines-là. Donc, ça commence un petit peu à m'aider et ça me conforte sur tout ce que j'aime, en fait, si tu veux. Parce que depuis le début, depuis que je suis toute petite, je suis vachement attirée dans tout ce qui est immobilier, architecture, forcément, les matières, enfin, tout ce qui tourne autour de la maison et en fait, ce qui fait que tu vas faire ton cocon. Où tu te sens bien. Je savais que c'était ça qui était fait pour moi. Et donc, elle m'a un peu confortée sur ça. Et donc, je me suis dit, je vais tenter l'immobilier parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'être dans l'immobilier. Et donc, en fait, en un mois, donc, je démissionne, donc je n'ai pas de chômage, donc il faut que je trouve quand même quelque chose très rapidement. Et donc, je trouve une entreprise dans l'immobilier qui va me former pour être consultante, pour être négociatrice en immobilier, donc agent immobilier, en fait, dans la transaction et dans la location. Et donc, je vais y rester 3 ans, si je ne me dis pas de bêtises. C'était une superbe expérience, très difficile, parce que je pense que la plupart des gens pensent qu'agent immobilier, c'est ouvrir des portes. On a l'image de Stéphane Plaza qui, enfin, simplement, on ouvre des portes et puis on encaisse des commissions. Ce n'est pas du tout ça. En fait, la réalité, c'est le terrain, c'est faire de la prospection téléphonique, aller sur le terrain tout le temps, frapper, qu'il pleuve, peu importe, mais il faut être sur le terrain. Bah, c'est pas évident. J'ai eu un directeur d'agence qui a été très dur avec moi, mais dans le sens où il voulait que je réussisse, en fait. Donc il m'a vraiment poussée là-dessus. Et ça a été une superbe expérience. J'ai adoré. Et au bout de 3 ans, c'est un petit peu, ça a été compliqué avec le grand directeur d'agence. Donc j'ai décidé de partir. Mais pas sans rien derrière, parce que justement, à ce moment-là, je rêvais d'indépendance, déjà. Donc, c'est ce que je disais, le monde du salariat, je savais qu'il n'était pas tout à fait pour moi. J'avais vraiment des envies de liberté.
Parce que là, quand tu étais dans l'immobilier, tu étais encore salarié, parce qu'il y a des fois où tu peux être plus ou moins indépendant quand tu bosses dans l'immobilier.
Alors là, j'avais un statut. Alors, je ne sais pas si ça va te parler, j'étais en avance sur commission. Donc, en fait, je suis salarié avec un fixe, mais les commissions, du coup, elles se viennent en... J'avais des salaires assez variables, mais c'était quand même assez compliqué. Et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui est complètement indépendant et qui fait du consulting, qui est consultant en patrimoine, en fait, immobilier. Et là, ça me fait un petit peu rêver parce que du coup, il est indépendant, c'est tout ce que je veux. Je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'on m'a toujours inculqué, tout ce qui est CDI, en fait, comme quoi c'est le Graal. Je pense que là, on est la génération un petit peu à cheval avec salariat et indépendance. Et je me rends compte que le salariat, c'est pas du tout le Graal, en fait, c'est plutôt la prison même. Moi, je recherche plutôt la liberté et l'indépendance. Alors forcément, ça a des côtés positifs, mais aussi des grands inconvénients en termes d'insécurité et de stress. Mais je décide de tenter l'aventure et de me former dans tout ce qui est conseil en patrimoine, en fait, immobilier. Et donc, je pars. Et là, pour le coup, j'obtiens une rupture conventionnelle. Donc, j'ai le droit à 2 ans de chômage donc pour me lancer. Et donc, démarre une activité d'indépendante donc dans une entreprise, dans un système pyramidal. Pour ne pas la citer non plus, ça ne sert à rien. c'est pas très connu forcément, mais c'est pour le système pyramidal. Donc, indépendant, mais finalement, avec quand même ce qu'on appelle des parrains qui t'épaulent et qui t'aide à avancer dans l'activité.
Et donc là, du coup, attends, parce que consultant en patrimoine, ça veut dire que c'est quoi la différence avec ce que tu faisais avant? Ça veut dire que toi, tu apportes quoi? Une expertise? Qui sont tes clients?
Alors, tout ce qui est conseil en patrimoine, en fait, c'est vraiment conseiller les gens sur où placer leur argent pour faire des investissements. Et moi, j'étais vraiment sur la partie immobilier. Donc, et puis défiscalisation, ça va avec. Du coup, les gens qui voulaient faire un investissement immobilier et qui voulaient trouver des solutions pour défiscaliser, par exemple, ou qui voulaient placer leur argent. Alors, il y a plein de façons différentes. Moi, j'étais plutôt orientée immobilier. Donc, je vendais notamment des appartements loi Pinel ou des SCPI, je ne sais pas si ça te parle. Voilà, ce genre de produits. Et ben ça a été très très dur finalement cette expérience parce que il y avait beaucoup de rendez-vous. J'avais un speech à sortir en fait d'au moins une heure, tu sais, appris par cœur parce que c'était comme ça, la boîte l'a imposé. Et beaucoup de rendez-vous, beaucoup de stress et pour pas beaucoup de signatures de contrat finalement. Donc là c'est pareil, j'ai commencé à me dire travailler pour rien en fait, ça me plaît pas. Il y a des gens qui adorent ce côté, tu sais, challenge commercial, qui vont en faire plein, et puis au final ça va payer, mais moi j'avais pas envie de travailler pour rien. Et donc je signe pas beaucoup de contrats et puis je commence aussi à j'ai un petit doute sur ce que je vends en fait, j'ai pas la pleine certitude que le produit, que je crois à fond au produit que je vends. Et je pense que ça c'est la base de toute vente tout commerciale. Si tu crois pas au produit, je pense qu'à un moment, ça se fait ressentir. Du coup, au bout d'un an, et demi, je crois, j'ai le courtier en prêt immobilier avec qui je travaillais dans l'immobilier qui me dit, bah, écoute, viens bosser avec moi. Tu peux continuer à être consultante en patrimoine, mais tu viens faire du courtage pour faire des prêts en immobilier. Et donc, je le rejoins à La Défense. Et c'est très bien parce que du coup, c'est deux activités qui sont complémentaires. Je suis toujours indépendante. Mais l'avantage, c'est que j'ai des clients qui cherchent à défiscaliser et qui cherchent à financer des prêts. Donc, je peux vendre les deux, en fait. Et le métier de courtier me plaît pas trop mal. Pourtant, à la base, je suis pas mateuse. Et ça se passe bien. J'ai le sens client, j'aime bien. Mais pareil, je signe pas autant de contrats que ce que je devrais. Donc, je suis un peu frustrée.
Parce que là ta rémunération, elle est en fonction des contrats que
tu
signes.
Et là, je suis totalement indépendante. Mais vu que je suis encore à Pôle emploi, je cumule, en fait, tu sais, mes commissions et puis je les récupère plus tard. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a un moment, le chômage, ça s'épuise. Hein. Voilà. Et pourtant, j'ai vraiment travaillé pendant 2 ans et les commissions ne sont pas rentrées comme je le voulais. Et puis, je me rends compte du stress, tu sais, au fur et à mesure, de me dire, j'ai pas de stabilité, je vis avec des peut-être que, enfin, trop d'instabilité, trop d'incertitude, et beaucoup de travail, au final, encore une fois, pour pas forcément signer avec les clients. Et ça, c'est quelque chose qui commence un petit peu à me déranger.
Quand tu dis beaucoup de travail, est-ce que tu as des exemples concrets? Enfin, vraiment, tu bossais toute la journée
Ouais, alors, le côté indépendant faisait que je pense que je travaillais pas de 8h à 19h, tu vois, mais des fois j'arrivais à midi, mais je partais parce que j'essayais d'éviter les bouchons parisiens, j'essayais de partir en décalé, ouais. Mais ça pouvait m'arriver de partir à 20h, ouais, pour, tu sais, je partais en décalé, quoi, tout simplement. Mais j'avais des fois des rendez-vous, je pouvais avoir 6 rendez-vous dans la journée, ça pouvait arriver, tu vois, pour faire du prêt immobilier. Ouais. Et le contact passait bien, hein, j'avais le contact, puis ça me plaisait bien. J'étais dans une bonne équipe. Mais bah, va savoir pourquoi, je pense que tout simplement c'était pas fait pour moi, mais il fallait que je passe par là, je pense, parce que ça, du coup, ça a complété, si tu veux, mon expérience et mon en termes d'immobilier. Comme ça, je pouvais avoir vraiment pas mal de compétences en prêt. Ça allait me servir, quoi qu'il arrive, je le savais. Et du coup, le Covid passe par là. Et à ce moment-là, bah, les banques, c'est très compliqué. Les petits courtiers, on va dire, ont du mal à s'en sortir, surtout les nouveaux. Et je prends la décision d'arrêter parce que bah, j'ai beaucoup de routes, ça me coûte. Et puis finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui se signent parce que c'est compliqué avec les banques. Les gens n'empruntent plus parce que bah, on est en plein Covid, donc il n'y a plus de visites. Tout ça, c'est lié. Et donc, j'arrête.
Ok, mais tu n'as pas de plan B.
Et là, j'ai pas de plan B.
Tu dis j'arrête.
Ouais. Là, je me dis, ok, il me reste, je crois, 5 mois de chômage, un truc comme ça. Il faut que je trouve un CDI, en fait. J'ai plus le choix. On vient d'acheter une maison dans le Vexin avec beaucoup de travaux.
Oui, parce que tu es en couple.
Et je suis en couple. Et on vient d'acheter une grange, donc tu vois, avec beaucoup, beaucoup de travaux. Et là, je commence un petit peu à stresser. aucun revenu. Et puis, du coup, je me dis, bon, je recherche un CDI, tant pis, ce sera temporaire, mais je mets l'accent sur la proximité. Et puis un fixe, en fait. Et ben, je trouve pas. Pendant 4 mois, je postule à des postes où pourtant j'ai le profil, mais je pense que le côté passé indépendant plus femme 30 ans sans enfant, je pense que ce combo-là m'a pas aidée.
Est-ce que tu postulais dans quel genre de truc?
Des postes style, tu sais, commercial, en école de commerce justement, pour trouver de l'apprentissage, ou dans des entreprises en tant que commercial, pas forcément avec des jobs très... Enfin, pas forcément du bac plus 5, tu vois, du bac plus 2 ou 3,
ouais, ouais, ouais.
Mais je voulais une stabilité, je voulais quelque chose qui ne soit pas stressant. À ce moment-là, j'hésitais à me refaire de l'immobilier en indépendant, mais je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Il y a eu plein de postes, je crois que j'ai postulé vraiment à plein de choses différentes pour être sûre au moins d'avoir des entretiens pour me remettre dans le bain. Et je n'ai pas eu un seul entretien.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est fou.
Pas beaucoup de retours ou alors que des négatifs, mais moi, je commence un petit peu à déprimer. Et je me dis, bon, tant pis, je vais utiliser mon Pôle emploi, ce qui me reste, pour me faire une formation plaisir pour moi.
Attends, mais c'est fou quand même, parce que tu arrives à dissocier le fait d'être complètement flippé, de ne pas savoir ce que tu vas faire dans 5 mois, et en même temps, tu te dis, ouais, allez, YOLO, je fais un truc pour moi, quoi.
Ben ouais, parce que je crois que j'avais besoin d'une... J'avais envie d'optimiser à fond cette période, tu vois, de 2 ans de off. C'était pas du off, mais j'aurais pas pu le faire plus tard. Donc je me dis, c'est le moment, en fait, ou jamais, de faire une formation plaisir.
Ouais.
Et du coup, vu que de toute manière, j'ai pas de retour d'employeur, je vais pas perdre mon temps, autant optimiser le temps qui me reste pour faire quelque chose qui me plaît, quoi. Et à ce moment-là, je décide de faire quelque chose, de me former sur le béton ciré, puisque je voudrais faire du béton ciré dans la grange. Je me renseigne des prix et je me rends compte que c'est assez cher et que j'aurai jamais les moyens de m'offrir une prestation de béton ciré. Surtout que j'ai pas d'emploi et que bon, ça s'annonce mal parti. Donc du coup,
Et donc c'est vraiment concours de circonstances, en fait. T'étais pas vraiment dans le truc avant, ouais.
C'est un énorme concours de circonstances et c'est là où je pense que la vie est bien faite. Je me renseigne un petit peu sur les marques de béton ciré parce que je connais pas plus que ça, tu vois. Je me rends compte que en survolant Pinterest, voilà, c'est un matériau qui me plaît bien et que j'aimerais bien mettre ça à la maison, mais je m'intéressais pas plus que ça aux matériaux avant, tu vois. J'étais vraiment j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Et donc je vois quelques marques de béton ciré, je me renseigne sur les formations. Et je m'apprête à signer en fait pour une formation, je sais plus de combien de temps, pour apprendre à le faire. Et puis en promenant sur Instagram, je suis une influenceuse mode déco, etc. Et je me rends compte qu'elle fait venir une artisane, Caroline, pour ne pas la citer, qui fait du béton ciré justement dans l'appartement de Camille, Noolita, qui est connue aussi. Et puis là, j'ai un coup de foudre en fait sur la matière. Je me dis, mais ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et cette artisane, ouais, super, quoi. Enfin, je commence à la suivre et je me rends compte qu'on est voisines, qu'on habite à 5 minutes, quoi, l'une de l'autre. Et j'étais à deux doigts, encore une fois, de signer ma formation. Et puis, elle met un message sur Instagram en disant qu'elle cherche quelqu'un pour l'accompagner sur un chantier, pour lui faire un coup de main en échange de lui montrer la matière, quoi. Et là, je saute sur l'occasion. Et je la harcèle,
c'est vraiment le destin, hein.
C'est le destin, franchement. Et parce que j'allais signer hein, pour la formation, et elle met cette annonce pour venir la suivre une semaine dans le village, vraiment à côté de la maison, donc à 3-4 minutes, quoi. Et alors qu'on est paumé dans le Vexin, c'est quand même
ouais. C'est joli mot, hein, son nom d'Instagram, ouais.
Caroline de joli mot. Et du coup, je la harcèle jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille, puisqu'elle n'avait pas donné, elle avait eu beaucoup de demandes, puisqu'à cette époque-là, déjà, elle avait pas mal de demandes. Du coup, voilà, à force de persévérance aussi, il ne faut pas lâcher. Hein, on est toujours sur le fait d'oser et il faut y aller. Et ben, je me retrouve le lendemain sur son chantier.
Ah, génial.
Et en fait, je ne suis jamais repartie. Ça a été assez incroyable parce que du coup j'ai eu un coup de cœur pour la matière et puis pour l'artisanat et puis pour la personne en fait. Je me suis pas dit tout de suite je vais en faire mon métier, puisqu'à ce moment-là je recherchais encore, je faisais encore beaucoup d'envois de CV, etc. Mais le Covid, je pense c'est pareil, ça a pas aidé en fait pour trouver du travail. Et à ce moment-là, Caroline, elle commence un petit peu à décoller et à avoir besoin de monde sur ses chantiers. Elle a besoin de monde pour un gros chantier à la Chaux, dans le showroom d'Atmosphère d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais la marque.
Non.
C'est des super belles pièces en bois venues d'Asie. Et puis, ils font le directeur Thierry fait un gîte Et donc, il y a, je sais plus, 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés de show à faire, je sais plus. Et on est en plein Covid et du coup, ben, je la suis en fait pendant plusieurs mois sur tous ces chantiers. Je sais pas combien de temps ça a duré. Bon, plusieurs mois. Et bon, je commence un petit peu à stresser quand même parce que j'adore, mais je vois la fin du chômage qui arrive.
Oui, parce que pour l'instant, du coup, tu la suis, mais t'es pas rémunérée. Enfin,
pas du tout, non, non. Tu l'aides. Ouais. Je l'aide, j'apprends et en fait, je passe du bon temps finalement, tu vois. Je m'épanouis en fait. Après, avec du recul, je me dis, j'allais travailler, mais j'adorais quoi. Enfin, c'était vraiment. J'avais l'impression de. Ouais, de m'éclater. Enfin, je pense que tu vois ce que tu veux dire. La réno, c'est quand tu prends goût, c'est top, quoi. Mais encore une fois, au bout de quelques mois, je pense que je suis enfermée dans mes carcans. Tu sais, j'ai fait une école de management. Il faut que je reste dans cette optique-là, et je vois pas plus loin, en fait. Et l'artisanat, pour moi, c'était, enfin, j'étais à milieu de penser que je rentrerais dans l'artisanat. Et puis la fin du chômage arrive et puis je suis vraiment les pieds et les poings liés parce que j'ai rien quoi. Et à ce moment-là, je suis déjà micro-entrepreneur puisque via mes anciennes activités et je décide de mettre à mon compte sur cette partie-là et Caroline a besoin d'aide donc en fait ça tombe super bien. Donc elle me fait travailler en sous-traitance et pendant plusieurs mois et puis je me rends compte que si je trouve pas de boulot, en fait, c'est que ben c'est parce que ma voix elle est là, en fait, tout simplement. C'est que là-haut on m'a envoyé des signes, tu vois. Moi, je crois vraiment au destin et je pense qu'il y a pas de destin. Enfin, ça devait être comme ça, quoi. Et depuis ce moment-là, et ça fait 3 ans, ben j'en suis là, artisan, des temps cirés et chaud, et je kiffe.
Attends, parce que du coup, au début, donc tu l'aides sur ces chantiers et en fait, donc au bout d'un moment, tu lui dis, bah écoute. Il faut que je sois rémunérée et tout ça. Et là, donc, elle commence à te sous-traiter des chantiers.
Et c'est ça. Et en fait, elle me prend, elle a besoin d'aide aussi sur ses chantiers parce que c'est le moment où Caro a commencé aussi à pas mal décoller et elle avait besoin de monde parce que elle commence à prendre des chantiers qui sont plus gros où il y a besoin de monde. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je pense que je suis arrivée au bon moment. Elle a besoin d'aide, ça marche bien et je suis là. Donc, en fait, elle m'a formée et ça coulait de source, tu vois. Que...
Ouais, en 5-6 mois, tu avais réussi à bien gérer la matière, ouais. Tu avais appris pas mal de trucs.
Bah oui, parce qu'en fait, j'ai passé tout le confinement sur les chantiers avec elle. J'ai pas été confinée du tout chez moi et je l'ai accompagnée sur tous ces chantiers.
Ouais, c'était formation intensive, quoi.
Ouais, mais c'était top, franchement. Et c'est vrai que j'ai mis plusieurs mois à me dire, mais en fait, pourquoi je ferais pas ça? Et encore une fois, j'ai quand même eu un mini doute, donc j'ai appelé ma fameuse astrologue humaniste, qui là justement m'a dit c'est bon, t'es dans la bonne voie en fait, t'as de nombreuses entre guillemets étoiles qui sont, t'es alignée au niveau architecture, au niveau matière, t'as le sens du beau en fait, il y a plein de choses qu'elle m'avait dit, des mots qui résonnent et quand t'as des gens qui sont proches de toi en fait qui te le disent, ça a pas le même écho que quelqu'un qui ne te connaît pas.
Ouais.
De beaucoup de choses qui se sont confirmées, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a confirmée justement à continuer. En fait, je me suis plus posée de questions. Et
puis fou quand même les barrières psychologiques que tu peux te mettre toi-même, tu vois, de dire que tu n'envisageais même pas une vie d'artisan alors qu'effectivement, ça faisait quand même des mois qu'on t'envoyait plein de signaux. Que
c'est
toi.
Ça. Oui, et puis c'était des signaux parce que clairement, ne pas avoir un seul entretien, ça a mis des mois, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais tant mieux, ce n'est pas grave de toute manière. Mais c'est incroyable, je pense que c'était vraiment le destin.
Et du coup, en termes de sécurité financière et tout ça, comment ça se passe? Parce que est-ce que tu, par rapport, ceci dit, avant, tu étais déjà un peu indépendante, mais est-ce que tu perds vraiment beaucoup en salaire? Est-ce que tu dois baisser ton niveau de vie? Ou finalement, il n'y a pas une si grosse différence que ça?
Alors déjà, il y a deux choses. Je pense qu'en termes de stress, je l'ai été, mais pas tant que ça, parce que Caro avait un planning très, très chargé, tu sais, déjà en chantier. Et dès le début, elle m'a dit, voilà, elle avait vachement de visibilité. Et j'en avais aussi, du coup, puisque c'était des chantiers où dès le début, elle m'a dit, j'ai besoin de toi, en fait, sur ces périodes-là. Donc, je savais à peu près, tu vois, au moins combien j'allais avoir. Et la grosse différence avec tous mes jobs différents, enfin, que j'ai eu précédemment, c'est que, et ça change tout, c'est que je savais que si je me déplaçais sur un chantier tel jour, je savais que j'allais être payée à la fin de la journée. Je travaillais pas pour rien. Et ça, c'est vraiment, je pense, qui a été le très important et ce qui a changé toute ma vision de l'indépendance, parce qu'il y a plein de types d'indépendance finalement. Et le type d'indépendance d'avant ne me convenait pas. Celui-ci, voilà, je sais que quand je me lève le matin, je vais travailler une semaine sur un chantier, je sais qu'à la fin, je suis payée pour mon travail que j'ai fait. Il n'y a pas de... C'est pas ou peut-être pas, non. C'est une prestation et elle est payée. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est, tu peux prévoir longtemps à l'avance. En termes de revenus, si tu veux, je pense que les débuts, c'était pas non plus ce qui me convenait, mais c'était quand même pas trop mal, parce que j'ai bizarrement, malgré un master en management en région parisienne, bah, je gagnais pas grand-chose dans mes anciens différents boulots, en fait. Je vais pas dire que j'étais au SMIC, mais franchement, ça me convenait pas. Je trouvais que c'était pas... ça valait pas le coup, en fait, le rapport études gain, il était pas, enfin, c'était pas du tout cohérent. Et là, je me suis dit, ben, si je travaille plus, je peux vraiment gagner plus. Il y avait vraiment un vrai rapport travail argent qui était cohérent pour moi et qui était dans la vision de ce que je souhaitais, quoi. Et voilà. Après, je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Non, c'est parce que souvent, une des peurs, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se reconvertir dans ce genre de choses, et notamment le béton ciré, parce que ça a le vent en poupe, mais tu vois, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des réserves en disant « Ah, mais je vais devoir diviser mon salaire par 3 », et du coup, tu vois, l'idée, c'était que tu puisses un peu aiguiller en disant « Bah, pas forcément, tu vois, c'est pas parce que t'es artisan que tu vas forcément être au SMIC ».
Non, et justement, je pense que c'est mal connu, en fait, de penser, je pense que peut-être que j'avais cette image-là aussi. L'artisanat, il n'a pas toujours été beaucoup mis en valeur, je trouve. Et là, c'est pas du tout la même chose. Et on se rend compte qu'on peut très, très bien gagner, on peut très bien gagner sa vie en artisanat, en fait. Et il n'y a même pas photo, je veux dire, je gagne 3 fois plus ma vie en tant artisan qu'en étant salarié avec un master en management. Donc, il n'y a pas de règle. Je pense que ça dépend aussi du type, peut-être, d'artisanat, enfin de profession, tu vois. Mais je pense qu'on peut bien gagner sa vie dans l'artisanat. Après, je pense que là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que j'ai très vite pris mes chantiers, puisque je suis assez, j'ai pas peur, en fait, je suis une battante. Et puis je crois que j'avais aussi besoin d'argent. Et donc la nécessité d'avoir besoin d'argent fait que ben tu te sors les doigts du cul, entre guillemets. Donc j'ai très vite pris beaucoup de chantiers. En fait, tout ce que je pouvais prendre, je le prenais, en fait, quitte à me faire des ce que j'appelle des journées de Jumanji ou des semaines de Jumanji. J'avais plusieurs chantiers même en même temps, et je suis arrivée au bon moment parce que ça commençait à décoller à ce moment-là, le béton ciré. Oui. Là maintenant, c'est vrai que tu as pointé quelque chose. Tout le monde veut faire ça. C'est un des métiers, enfin des branches de l'artisanat où on a le plus de demandes au quotidien d'idées de reconversion, en fait.
Donc, et tu penses qu'il y a encore de la place ou moi, c'est le moment où on va déprimer les gens?
Oui, je dirais qu'il y a de la place. Je pense que ça dépend du secteur aussi. On est en région parisienne, donc ça va, il y a quand même de la place. Mais est-ce que la demande sera autant forte, tu vois, les prochaines années? Est-ce qu'il y a un effet de mode? Ça a toujours été. Hein. Le béton ciré, c'est les architectes l'utilisent depuis vraiment longtemps. Mais il y a un vrai effet de mode depuis quelques années. Mais je ne sais pas si ça va pas, tu vois, se freiner à un moment. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui vont prendre le dessus? Est-ce que c'est un effet de mode qui va durer 5, 10, 15? Je ne sais pas.
Ouais, mais est-ce que ça fait pas aussi partie de ton parcours, tu vois, de dire, bah, faut que je reste alerte sur les tendances,
qui exactement. Reformer, ouais, c'est ça. Tu vois. T'as tout compris. Je pense que ça fait partie de l'artisanat en général, de savoir se former sur, d'avoir des choses complémentaires. Par exemple, la chaux, tu vois, c'est quelque chose que je peux proposer aussi à côté. Il y a sous différentes formes. Hein. Il y a des enduits de chaux, des badigeons de chaux, des différents types de peintures. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut ajouter à son arc, on va dire, en termes de compétences. Et je pense que c'est ce qu'il faut, proposer des choses différentes, mais en restant quand même spécialisé, je pense, dans la matière.
J'allais dire, il y a un truc qu'on n'a pas encore évoqué, parce que c'est vrai que tu parles vraiment du côté matière et toi, tout ce qui t'a plu. Mais il y a aussi un côté dont on avait d'ailleurs brièvement parlé, qui est plus les inconvénients et le fait que c'est quand même un métier qui est aussi hyper fatigant.
Ouais, j'allais y venir, ouais. c'est très fatigant. C'est très fatigant. Je sais que je pourrais pas faire ça pendant, je vais pas dire 10 ou 15 ans, je sais pas, mais je travaille beaucoup et je pense que déjà, moi, il faudrait que je diminue un petit peu le rythme, faire moins de chantiers. Si je peux donner un conseil à ceux qui veulent se reconvertir dans les métiers de l'artisanat, c'est s'il y a beaucoup de demandes, c'est de ne pas en faire à outrance comme je fais, puisqu'après, en fait, ça devient un métier. Ça ne devient plus, en fait, un métier passion. On est fatigué et puis il y a des journées où on n'a pas envie d'y aller, en fait, parce qu'on est le dos fait mal, les genoux font mal. C'est aussi stressant, en fait. On s'imagine pas comme ça à travers les réseaux, mais il y a beaucoup d'administratifs. Et puis il y a le stress de bien faire, tu sais, qu'il arrive des. Comme tout métier, en fait. Il y a du stress aussi. Et ça, on le perçoit pas forcément à travers les réseaux. Donc,
c'est intéressant, ouais.
Je pense que justement, il faut pas en faire trop. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu peur d'avoir des chantiers au début et puis que ça s'estompe. Donc, je me suis dit, tout ce que je peux prendre, il faut que je le prenne, en fait, parce que je ne sais pas si l'année prochaine sera aussi, aussi rose et si j'aurai autant de demandes. Je ne savais pas. Et puis, on était encore dans l'inconnu, on était encore en période de Covid. Donc, c'était compliqué. Et là, pour le coup, j'avais zéro porte de sortie, quoi. Plus de chômage. Donc, il fallait que je rentre des sous et que je m'assure une avance financière. Donc, je pense que j'ai eu de la chance et que le fait d'avoir du mordant, tu vois, et d'en vouloir, et ça, c'est grâce à mes expériences aussi passées, hein, que ce soit dans l'immobilier ou de manière générale, je suis quelqu'un j'ai la niaque, tu vois. Et je pense qu'il faut partir du principe qu'on n'a jamais rien à perdre, qu'il faut oser. Moi, je crois un petit peu en l'univers quand même, donc je pense que, ouais, c'est écrit.
Mais ce que tu dis, effectivement, que tu ne dois pas faire ça non plus plus de 15 ans, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut quand même anticiper.
Ouais.
Déjà, tu te reconvertis peut-être pas là-dedans à 50 ans, tu vois. Et,
ouais, je pense
et
pas.
Puis si tu le fais jeune, peut-être qu'il faut aussi te dire, bon, je le fais sur une période définie et peut-être qu'après, il faudra à nouveau que je trouve...
Je suis déjà dans cette optique-là, si tu veux, parce que je suis assez prévoyante, on va dire. Et je reste toujours, ma première passion, c'est l'immobilier. Et je reste toujours dans ce domaine-là et j'ai envie de faire quelque chose là-dessus et de préparer ma retraite aussi, bon, même si on n'y pense pas trop, mais il n'y aura pas de retraite. Mais justement, il faut que je la prépare à mon sens. Et moi, le but, c'est de développer par la suite un peu plus l'immobilier. Donc, tu vois, de faire du marchand de biens ou de la location saisonnière avec des appartements, des maisons rénovées, vraiment sympa avec du goût, tu vois. Un peu me prendre pour une archi, finalement. Et de faire, de développer l'immobilier, de faire quelque chose qui est un peu moins physique, mais de continuer tout évidemment la matière, parce que c'est ça reste là où je m'épanouis, là où je suis bien, j'adore le contact avec le client, puis ça a du sens, j'ai vraiment l'impression de faire du beau, tu vois, c'est un petit peu la phrase qui résonne en moi, j'aime faire du beau.
Mais c'est marrant, ton parcours, le fait qu'il soit un peu hybride, tu vois, je trouve que ça apporte plus de nuances que j'ai tout plaqué pour être artisan. Bah, pas forcément, tu vois. Là, j'ai une période où je fais de l'artisanat et en même temps, ça sert à un projet qui sera peut-être différent dans quelques années parce que j'ai aussi envie d'y mêler de l'immobilier. Mmh. Enfin, tu vois, je trouve que c'est assez nuancé comme profil.
C'est nuancé, mais en même temps, c'est lié parce que, comme je te disais, j'ai toujours été passionnée d'immobilier et en fait, je suis en train de tout... toutes mes passions, en fait, je suis en train de les corréler, en fait. Et du coup, je me dis que l'immobilier, faire de la rénovation, faire des belles rénovations, même, tu vois, du marchand de biens avec peut-être des biens qualitatifs, c'est hyper cohérent. Et le béton ciré, les matières, ça va me permettre c'est un moyen d'arriver, en fait, à concrétiser ces projets-là, personnels et professionnels, finalement. Et en même temps...
Donc, tu peux emprunter en étant artisan.
Oui, il n'y a pas de... Alors, je dirais que, tu sais, la question de l'emprunt pour les projets, c'est vraiment une question de compte. Si tes comptes sont clean et que... Moi, sans avoir beaucoup d'expérience en artisan, on a pu acheter une maison, tu sais, qu'on rénove à l'Aigle. Il a vu que les comptes, ils étaient clean et que je mettais de l'argent de tous les côtés. En fait, on en revient toujours à ça au niveau de la banque, hein. C'est prouver au banquier que tu sais mettre de côté de lui prouver, de montrer que tu sais de quoi tu parles, en fait. Et moi, tout mon passé, en fait, de courtier en prêt immobilier, ça m'a vachement aidé parce que je lui ai présenté un dossier béton avec les loyers qui iraient en face de la mensualité. Donc, ça a été très clair. Et ça a été vraiment, je pense, mon point fort. C'est que tout ce que j'ai fait auparavant, c'est pas pour rien. On dit que c'est jamais pour rien, mais c'est encore... c'est hyper complémentaire. En fait, ça m'a permis de me construire et de réaliser mes projets. Parce que sans ça, je pense que j'aurais pas pu.
Ouais, ça c'est bien, c'est un beau message aussi de dire effectivement rien n'est jamais perdu. Je pense que tu as fait avant, c'est pas gâché.
Non, quoi. Et même mes mauvaises expériences, je dirais, dans le retail, en fait, ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qui n'était pas fait pour moi, tout ce qui ne me plaisait pas. Et je pense qu'à partir du moment où tu sais déjà ce qui n'est pas fait pour toi, ce qui ne te convient pas, c'est la base. Enfin, je pars vraiment du principe quand on est perdu, parce que je l'ai vraiment été, j'ai été très, souvent très mal, hein, de ne pas trouver ma voie. J'ai vraiment été. Je veux dire, j'ai beaucoup souffert. Et à un moment donné de ma vie, je me suis dit pourquoi je suis faite, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun boulot qui me correspond. J'ai l'impression d'être faite pour rien, de prendre plaisir pour rien, d'être nulle, en fait. Je trouvais pas ma voie. C'est vraiment, ce mot-là, il a tout son sens. Et je pense que beaucoup de personnes ressentent ce sentiment-là à un moment donné. Le fait d'avoir plein d'expériences, c'est très formateur, mais c'est pas que des mots, en fait. De savoir, de passer par là, ça permet de pas avoir de regrets, tu vois. Parce que si j'étais pas passée par là, aujourd'hui, je serais encore peut-être à me dire, ah, je pense que j'aurais bien voulu tester quand même le monde de la mode. Ah, j'aurais bien voulu, ah, je pense que ça m'aurait bien allé, tu vois. Non, bah non, j'ai testé. Et donc, maintenant, je sais, ce qui est fait ou pas fait pour moi.
Oui, c'est un peu l'action au final.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut tester. Et toute mauvaise expérience n'est pas en fait mauvaise dans tous les sens. Elle est bonne puisqu'elle permet de se rendre compte de ce qui ne va pas et ce qui n'est pas fait pour nous. Et je pars dans tous mes principes. À chaque fois que j'ai des questions, j'écris. Moi, j'aime bien écrire. Tu vois, faire le passage à l'écrit, il est important pour moi de dire tout ce que je n'aime pas. Ok, ça c'est pas fait pour moi, ça ne me correspond pas. Et déjà, de décrire tout ce qui ne va pas, ça permet d'être moins perdu. Moi, je trouve que commencer par là, c'est déjà bien. Parce que quand on recommence à une page blanche, hein, on veut changer de métier, de vie, on se dit, ok, mais je fais quoi, en fait? Je commence par quoi? Bah, déjà, commencer par ce qu'on ne veut pas, je trouve que c'est déjà un bon début. Alors, ça va être extrême, hein. Quand j'ai repris ma reconversion, on va dire, je me suis dit, j'ai noté, ok, tout ce qui est déjà métier lié à la médecine, bah non, c'est pas pour moi. J'aime pas les hôpitaux, j'ai pas envie de refaire des études dans ce domaine-là. Donc j'élimine toute cette partie-là. Tu sais, j'ai pris toutes les listes de métiers et puis j'ai mis des cases, en fait. J'ai rangé dans des cases ce qui était pas fait pour moi, ce que je ne voulais pas. Et puis avec des points d'interrogation. Ah bah ça, pourquoi pas. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et puis... Après, encore une fois, je te dis, l'astrologie humanisme m'a pas mal aidée et je le conseille, je pense, à vraiment beaucoup de monde. Je pourrais te donner aussi le contact de personnes, si ça peut intéresser, qui sont perdues et ça permet de... Bah, moi, je trouve que ça m'a recentrée et ça m'a vraiment beaucoup aidée.
Ouais, avec plaisir, je le mettrai dans les commentaires, enfin dans la description de l'épisode, pour ceux que ça intéresse.
En fait, si tu veux, voilà, ça permet de prendre conscience de tes valeurs, de tes forces, là où tu te sens bien, là où de ce qu'il faut que tu travailles aussi. Et à partir de là, ça t'aide. Et pour être très honnête, à chaque fois que j'ai eu un coup de mou ou des interrogations sur ma vie professionnelle, je l'ai contacté et ça m'a aidé, en fait. Et après, je vais aller dans les extrêmes. J'ai pris un peu... j'ai un rituel. J'ai commencé un rituel. À chaque fois que j'ai un doute sur quelque chose... que ce soit sur un achat immobilier ou autre, un gros doute, ça va peut-être te faire rire, mais je l'appelle ou alors je tire les cartes.
Ok.
Et c'est bête, mais en fait, le fait que quelqu'un prenne pas une décision pour moi, mais tu sais, mais conforte quelqu'un d'extérieur, qui est quelque chose un petit peu de, je dirais, pas surnaturel, hein, parce que c'est pas du surnaturel, c'est encore une fois, c'est assez logique. Eh bien, ça m'aide.
Bah après, non, mais tu trouves...
En fait, chacun trouve, son aide là où il veut l'aider et là où il veut la trouver. Et moi, c'est vrai que je crois que j'avais besoin d'une aide extérieure, peut-être un peu spirituelle, ou enfin, j'avais besoin que quelqu'un me dise qui j'étais. En fait, c'était ça aussi à la base, et ça m'a beaucoup aidée. Donc, si je peux partager, c'est avec plaisir.
Ouais, non, mais écoute, on mettra toutes les infos. Autre question plus pragmatique, mais du coup, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par ton parcours, qu'est-ce que tu recommandes pour se reconvertir dans le béton ciré, la chaux, la matière, etc. Est-ce que tu as des formations Est-ce que tu as des contacts Tu vois, avoir un peu d'infos
pratiques. Alors, je dirais que si tu veux faire une formation, il y a plusieurs écoles. Il y a Artemisia à Paris, Il y a Marius Sorrenti aussi, la marque de béton ciré, qui fait des formations sur 2 ou 3 jours pour apprendre les bases sur les supports, la matière. Après, ça ne fait pas de toi un artisan, ça ne fait pas de toi un pro de la pratique. Ça doit forcément être couplé à une période terrain.
Donc en fait, la formation académique, elle est très, enfin c'est très court, et après c'est plus trouver quelqu'un avec qui tu peux.
Oui. T'entraîner. Alors si tu passes avec des fournisseurs, c'est toujours très court. En général, c'est de quelques jours à une semaine. Et Artemisia, ils font l'école à Paris, ils font plusieurs. Il me semble, je l'ai pas faite, hein, mais ils font plusieurs sessions, enfin durées. Tu peux apprendre le béton ciré sur quelques jours, ou tu peux faire même l'école pendant un an, où là tu vas avoir vraiment pas que le béton ciré, tu vas avoir plein de techniques différentes, la chaux, les faux marbres, enfin vraiment toutes les techniques décoratives, tu vas les apprendre à cette école-là. Et après, pour moi, c'est le terrain. Pour moi, c'est le meilleur apprentissage. L'artisanat, c'est...
Donc les gens peuvent te contacter.
Oui, alors je le fais, hein, de temps en temps. Je peux pas prendre. On a beaucoup avec les filles, là, on a beaucoup de demandes. On peut pas prendre tout le monde, c'est très compliqué parce que ça demande du temps. Former, ça prend du temps. Mais voilà, ça nous arrive de dire oui. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est avec plaisir.
Ok, super. Une question aussi peut-être sur que je pose souvent, c'est... alors, toi, tu as parlé un peu de l'astrologie, ça en fait partie, mais tes inspirations, les choses qui t'ont aidé quand tu étais perdue, tu vois, ça peut être des bouquins, des personnes, des films.
En termes de lecture, alors je ne suis pas trop lecture à la base, mais il y a quelques années, en fait, j'ai commencé justement, quand j'en ai eu marre du salariat, j'ai eu un petit déclic avec un livre qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». Je ne sais pas si ça te parle.
Ouais, je l'ai lu, ouais.
Ouais, c'est je lis beaucoup. Enfin, je lis beaucoup. Les quelques livres que je lis depuis quelques années, c'est des livres liés à l'entrepreneurship, enfin tout ce qui est développement personnel. Et en fait, j'aime bien, tu vois, Père riche, père pauvre. Je pense que pareil, tu vois, là, ce genre de livres. Voilà, c'est plus des livres que j'ai bien aimés parce que ça fait rêver, en fait. On y découvre en fait des profils, c'est vraiment des profils d'indépendants et de passage à l'action. Ouais, ça a fait tilt à ce moment-là. Je pense que quand j'ai commencé à lire ces livres-là, j'ai compris qu'en fait le salariat c'était une prison, et c'était pour moi en tout cas dans mon sens, que c'était pas du tout le Graal comme on nous l'enseigne. Je pense que à ton époque c'est pareil, on a dû te dire le CDI, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu trouves un bon poste, il faut être carriériste, etc. Enfin, et en fait je me suis rendu compte avec donc, peut-être ce livre-là et puis au fur et à mesure de mes expériences que non, en fait le CDI c'était pas du tout ce que je voulais. Et même si l'indépendance c'est pas évident tous les jours, mais c'est là où je me sens bien. Moi j'ai besoin de liberté. Et donc ce genre de livre, je pense que c'est un bon début et je le recommande parce que c'est des vraies expériences.
Ouais, non, je suis d'accord.
Et puis moi j'aime beaucoup parce que ça nous apprend aussi sur l'éducation financière, sur le passage à l'action en fait, je pense tout simplement.
Oui, je trouve que ça t'ouvre un peu le champ des possibles, et je suis d'accord sur le truc de la liberté. Moi aussi, c'est une de mes valeurs cardinales, et je pense que quand c'est vraiment un truc important pour toi, tu peux pas t'épanouir dans le salariat, parce que c'est ceux qui ont besoin de sécurité, tu vois, ça se conçoit, et tu peux trouver une forme d'apaisement là-dedans, mais si t'es quelqu'un, effectivement, comme toi, qui a besoin, tu vois, d'être indépendant, etc., tu seras toujours malheureux dans ce genre de statut.
Ouais, c'est ça. Après... Pour revenir à l'indépendance, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a plein de personnes qui... Moi, j'ai eu de la chance. J'ai réussi, tu vois, de la chance. Je dirais, j'ai travaillé pour, tu vois, mais j'ai plusieurs mois de bouquet, tu vois. J'ai au moins 6 mois d'avance. Donc, en fait, le côté stress et peur de l'indépendance, je pense que ça, c'est beaucoup de personnes ont cette peur-là de « est-ce que je vais trouver des clients ?» Le mois prochain, j'ai pas de boulot, comment je vais faire ?» Enfin, il y a ce stress-là quand tu commences. Et assez vite, moi, pour le coup, j'ai vraiment pris tous les chantiers qu'il y avait. Donc, j'ai assez vite rempli mon agenda et puis ça a continué. Mais c'est pas le cas de tout le monde.
Mais après, toi, j'allais dire, ce genre de reconversion, les gens peuvent le faire un peu à cheval, sans quitter ton métier direct.
C'est souvent ce que je conseille, justement. Au début, quand on a un boulot, je pense que ce qui est bien, c'est de partir à mi-temps. Et bon, faut trouver un mi-temps... tu vois, une semaine ou deux, enfin, parce que une après-midi, une matinée au travail en salariat et une après-midi en artisanat, ça le fait pas. Faut vraiment des semaines entières parce qu'une une semaine, je dirais, béton ciré. Un chantier béton ciré, globalement, c'est sur une semaine. Donc, ce qui est, pour se reconvertir, pour commencer, je pense que c'est bien de faire ce mi-temps-là. Si c'est possible, il faut voir avec l'employeur, mais une semaine, c'est bien. Et c'est même judicieux parce que si tout plaquer sans rien avoir derrière, c'est dangereux et ça risque de même dégoûter en fait du métier parce que le stress et la peur seront trop présents pour moi, je pense.
J'ai une dernière question pour toi qui est un peu rituelle, qui est: quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
Oser. Il faut oser. Faut pas. Ce qui nous empêche de faire les choses, c'est la peur, c'est les émotions. Et puis si on se plante, c'est pas grave, on recommence. Ça se travaille quand même. Il faut, je pense qu'il faut vraiment tout écrire. Quand on sent qu'on est prêt, en fait, il faut y aller. Et il faut pas remettre à demain parce que sinon, on le fait jamais. Moi, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise. Et en fait, elle s'est un peu imposée à moi, donc parce que peut-être que j'aurais pas été capable de la prendre toute seule cette décision.
Oui, donc ne pas non plus hésiter à trouver un peu d'aide extérieure.
Ouais, moi je pense qu'il faut, c'est pas ouais. Évident et de l'aide extérieure. Je pense que les proches, la famille, je suis pas sûre que ce soit le bon. Enfin, je pense qu'il faut quelqu'un d'extérieur.
Bah, ils projettent sur toi tes peurs.
Oui,
aussi,
et puis tu sais, c'est comme quand t'as quelqu'un, il y a ça, c'est exactement ça. Et puis quand t'arrêtes de fumer, par exemple, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui t'aide et qui te dise. Quand c'est le proche ou le conjoint, les gens n'écoutent pas, en fait. Et c'est un peu la même chose. Là, je pense d'avoir une aide extérieure pour d'abord apprendre à savoir qui on est. Et là, je pense que c'est important. Comment on fonctionne, de mettre des mots, en fait, sur non, c'est pas moi qui vais pas avec le monde actuel, c'est simplement que j'ai besoin d'indépendance et de liberté et que le salariat, c'est pas fait pour moi. D'arriver à comprendre qui on est, je pense que c'est déjà... C'est le plus important.
Super, bah on finira là-dessus. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, donc il y a ton compte Instagram Maja, alors tiré du bas,
oui,
je crois
c'est
ça.
Hein. Oui, et 5 tiré du bas. Après.
5 tiré du bas. que je mettrai aussi dans le lien. Est-ce que tu as un site ? Je ne me rappelle pas si tu as un site internet.
Oui, il y a un site. Alors, il n'est pas, mis à jour, mais il y a un site. C'est majam.fr. Tu verras.
Ok, super. Mais donc principalement, tu es plutôt accessible
plutôt sur Instagram, ouais. Par contre, tout ce qui est journée sur chantier, en général, je demande à ce que ce qui est déjà une micro-entreprise de créer, enfin si en tout cas il y a souhait de toucher à la matière, parce que c'est des milieux qui sont contrôlés et on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, en tout cas, pour appliquer la matière, l'idéal, c'est d'avoir au moins une micro-entreprise. Après, okay. Voilà, journée découverte. Observation, il n'y a pas de souci.
Et puis pour les gens qui veulent peut-être te prendre un chantier, enfin où tu vois te.
Bah avec plaisir.
Passer une commande.
Avec plaisir. Donc, je suis en région parisienne, mais je me déplace selon les projets.
Ok.
Pour information.
Super.
Voilà.
Merci beaucoup, Mathilde.
De rien.
À bientôt.
Ciao.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.